Bonjour à tous. C'est bon, il y a du bruit. C'est cool. J'aimerais qu'on commence par quelque chose d'un petit peu spécial. J'aimerais qu'on puisse tous se lever, s'il vous plaît. Et est-ce que vous serez d'accord pour qu'on fasse une ovation au roi des rois ? C'est parti ! Yes ! Yes, c'est bon ça. J'aime énormément ce moment de Sainte-Cène. C'est vraiment une tradition que Jésus nous a amenée et qu'on perpétue au fil des siècles et même des millénaires. Et pour introduire ce message, je vais vous raconter une petite anecdote. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un frère, 2 ans plus grand, qui habite depuis 11 ans en Allemagne. Et l'année dernière, on est allés tous ensemble pour le week-end de la Pâque en Italie. Et on a passé le week-end tranquillement ensemble. Et bon, on était vers le lac de Garde et il fait assez chaud la journée, mais le soir, il faisait encore un peu frais. Et on était autour de la table, on discutait, on buvait un verre. Et puis à ce moment-là, il rentre dans sa chambre et puis il va passer une petite veste. Et là, je le vois ressortir. Et puis au bout d'un moment, mes yeux sont attirés sous la table. Et je le regarde et je lui dis, toi, tu t'es vraiment bien imprégné des traditions allemandes. Il avait mis des chaussettes avec ses sandales. J'en profite pour saluer nos amis allemands et suisses allemands qui nous visaient très ce matin. Mais c'est encore plus fort que ça. Attendez, c'est encore plus fort que ça. C'est pour vous dire que là, c'est pas un cas isolé. Ils sont partis là en juin aux États-Unis. Ils étaient à l'entrée, à la porte de la vallée de la mort. C'était un petit village limite village désert. Il y avait juste un petit restaurant, une station essence. Et là, ils rentrent, ils mangent en famille. Et il y a un couple qui rentre dans le restaurant. Le mec avait des chaussettes dans ses sandales. Je vous le donne en mille, il parlait allemand. Tout ça pour vous dire qu'on est tous régis par des traditions culturelles qui viennent de nos pays, de nos familles, et tout ça interagit avec nos personnalités à chacun et chacune. Le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, on a souvent tendance à se comparer, à regarder ce que font les autres, à juger même. Et ça, c'est humain. C'est humain. Et j'aimerais vraiment aussi vous dire que ce message n'est pas là pour juger personne, si ce n'est tout le monde. Et pour ça, j'aimerais bien sûr voir comment Jésus interagit dans la Bible avec ses traditions. Et pour commencer, j'aimerais vous définir le mot « traditionalisme ». Donc le mot traditionnaliste, c'est une doctrine qui, dominée par le souci de l'événement traditionnel, conteste la part de l'élément rationnel dans l'acte de foi. Donc dans la Bible, on va pouvoir retirer plusieurs sortes de traditionalisme. On va commencer par le traditionalisme culturel. Donc pour ça, on va commencer par lire Matthieu 9, versets 9 à 11. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai relu ce passage il n'y a pas longtemps. J'ai regardé une série de dessins animés sur la Bible. C'est mon côté grand enfant. Et il y a un moment où ils remettaient en scène justement ce moment où Jésus appelle Matthieu. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu qui est Simon-Pierre, le gars qui est un petit peu impulsif, caractère un peu bougonnant. Et dans ce dessin animé, on voit Simon-Pierre arriver vers Jésus. Il dit « Non, mais ça va pas, attends, t'appelles un péager. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Il est pas digne de te suivre, Seigneur. C'est quoi ce problème ?» Et j'ai trouvé super intéressant cette réaction. Vraiment très, très intéressante. J'aimerais juste vous rappeler un petit peu le contexte de la Judée d'Israël à ce moment-là. Donc en fait, ça faisait déjà depuis quelques siècles qu'Israël était sous occupation. Il y a eu l'exil, après il y a eu l'occupation perse. Les Grecs avec Alexandre le Grand sont venus et ont vraiment imprégné leur culture helléniste dans le pays. Ensuite, il y a eu les Égyptiens, les Syriens et les Romains, qui avait une tendance aussi à s'imposer assez violente, culturellement, mais aussi militairement. Et donc, tout ça pour dire que les Juifs étaient dans un état d'esprit très conservateur. Ils étaient extrêmement accrochés à leur tradition, parce que pour eux, toute cette domination qu'ils sont sur leur pays est due par leur infidélité pour Dieu. Donc, au fait, eux attendent le Messie qui va venir retirer les Romains, qui va venir retirer la domination. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement accrochés à ces traditions, à toute cette loi qu'ils doivent respecter pour plaire et être fidèles à Dieu. Donc là, ils comprennent pas beaucoup pourquoi Jésus, qui lui est le Messie, vient, mange, appelle des péagers, c'est ceux qui récoltaient l'impôt. Donc c'était vraiment des parias à cette époque, c'était vraiment des gens avec qui on ne voulait pas être vu, qu'on voulait pas traîner avec, c'était vraiment « reste dans ton coin, t'es un traître, un collabo ». Et c'est dans cet état d'esprit-là que Pierre était quand Jésus a appelé Matthieu. Et pareil pour les pharisiens. Les pharisiens, c'était une caste qui était vraiment, c'était les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, qui était très conservateur. Ils connaissaient la loi, ils voulaient l'appliquer à fond. Et pour eux, c'était vraiment inimaginable de voir Jésus, qui se disait le Messie, pouvoir manger, être à table avec des péagers et des gens de mauvaise vie, car eux-mêmes ne traînaient pas avec ces gens-là. Ils ne voulaient pas se rendre impurs. On peut se rappeler aussi ce passage dans Luc où on a ce péager qui est là et qui supplie Dieu en se tapant à la poitrine, « Seigneur, pardonne-moi pour qui je suis ». Et on voit à côté le pharisien bien habillé qui va à la synagogue, qui connaît les lois. Et là, « Merci Seigneur, parce que je ne suis pas comme lui ». Et là, c'est dans un moment d'intimité, un moment de recueillement avec Jésus. Et ce pharisien-là, moi je vous le dis, même s'il porte bien, même s'il a une vie qui peut paraître belle, c'est lui qui est coupable devant le Seigneur. On peut vraiment dire que Jésus est de culture non traditionnaliste. Je vais vous apporter sa réponse en Matthieu 9 aussi, au verset 12 et 13. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les pécheurs. Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc Jésus est venu guérir les pécheurs du péché. On pense à la femme samaritaine. De culture, les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. C'est pareil, ça, c'est de côté, ils ne veulent pas d'interaction. Mais Jésus, lui, va s'approcher des Samaritains, va casser ce traditionnalisme culturel qui nous éloigne. On va parler du traditionnalisme religieux et on va continuer dans Matthieu 9 avec le verset 14. « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Le jeûne, ça ne fait pas partie de la loi établie par Moïse. C'est vraiment plus une tradition culturelle, non, une tradition religieuse qui a pour but de s'humilier devant le Seigneur. Vraiment, on se prive de nourriture, on se prive de certaines choses, vraiment pour implorer la clémence et l'action divine. On peut voir ça, David, après avoir orchestré l'assassinat d'Uri, va s'humilier, va jeûner pour implorer aussi la grâce de Dieu pour le fils d'Uri. Donc là, on est vraiment dans un principe religieux. Réponse de Jésus, Matthieu 9, on continue sur le verset 15. Jésus leur répondit, « Les amis, de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Donc là, il remet le contexte vraiment de la relation. Jésus est présent avec eux à ce moment-là et Jésus veut manger avec eux, veut passer du temps avec eux, veut se réjouir avec eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pensent qu'à jeûner, principe religieux. Alors que si je vous invite à manger chez moi à midi et que je vous dis « Ah ben, ce midi, on va jeûner », c'est pas cool, le relationnel, il n'y a plus le feeling là. c'est un petit appel. Merci. Et non, en fait, c'est vraiment un appel pour nous dire, on a Jésus là, on est dans un temps de louange, dans un temps d'adoration, on est avec Jésus, et nous, on se coupe de sa présence. Pourquoi ? Parce qu'on s'attache à des principes qui ne sont pas fondés par l'amour. Et puis nous avons aussi le traditionnalisme légaliste. Et là, on va prendre Matthieu 12, verset 10. « Et voici, il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. » Donc là, les pharisiens essayent d'accuser Jésus pour le mettre à mort. Et le sabbat, lui, fait bien partie de la loi qui a été donnée à Moïse. Et ce sabbat, quand il n'était pas respecté, c'était une punition de mort. Le sabbat remonte à la création. C'est le septième jour, Dieu se reposa. C'est là où prend naissance la notion du sabbat, du repos. Et par la suite, ce sabbat va être retransmis dans la loi qui a été donnée à Moïse. Et donc, ce sabbat, si on ne le respectait pas, il était puni de mort. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Jésus, il va leur demander ce qui est permis de faire un jour de sabbat. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou pas du bien? Et il prend cet exemple du berger qui va laisser ses brebis pour aller chercher quand même sa brebis qui s'est perdue le jour du sabbat. Il va quand même œuvrer pour sauver la brebis. Les brebis, c'est nous, et Jésus va quand même faire du bien pour que même un jour de sabbat, nous puissions être sauvés. Et pour cela, c'était pour la guérison d'un homme qui avait la main paralysée. Et là, il lui dit « Étends la main ». Et le gars, il étend la main et il est guéri. Et les pharisiens, ben, ils l'ont pas tué. Ils l'ont pas tué. Mais ils étaient dérangés. Il faut juste qu'on comprenne aussi le pourquoi du comment. Donc, comme je vous ai dit, les Juifs attendaient un Messie guerrier. Ils attendaient quelqu'un qui vienne et qui expulse les Romains par la force. Et là, ils ont un Messie, quelqu'un qui dit être le Messie, mais qui... Il s'humilie, il prône l'amour, il ne veut pas qu'on se fasse du mal les uns les autres, il remet en question beaucoup de traditions. Pourquoi ? Par amour. Et ça, c'est pas clair pour les Juifs de l'époque. C'est pour ça que Jésus, entre autres, a eu beaucoup d'opposition à ce moment-là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va leur dire ? Il le dit, lequel d'entre vous, là, si la brebis tombe dans une fosse le jour du sabbat, il ne la saisira pas pour l'en retirer. Parce que Jésus, que ce soit un jour de sabbat ou pas, quand nous-mêmes sommes dans le fond, il va venir nous chercher. Il ne va pas dire, non, attends, gars, t'es malade, t'es pas bien, ou moi je bosse pas là. Attends, on est dimanche, tranquille, je reste à la maison, c'est les pieds et chaussettes dans les sandales devant la télé, et puis on prend l'apéro. C'est pas ça. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça Jésus. Jésus, c'est l'amour parfait, c'est l'amour qui se donne, qui se sacrifie. Il va même dire, il va aller plus loin, il va dire, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Les sacrifices, c'est pareil, ça faisait partie de la loi. Ces sacrifices permettaient de se purifier auprès de Dieu pour expier nos fautes. Et c'était des choses que les Juifs devaient faire continuellement et pour pouvoir être vus comme purs devant Dieu, pour pouvoir être pardonnés de leurs fautes. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il préfère la miséricorde au sacrifice. Waouh ! Le choc culturel pour eux. On lui dit, ben, je préfère que tu aimes ton prochain plutôt que tu fasses des sacrifices à Dieu. Ben, à l'époque, c'était juste ouf. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter ça. C'est comme si je venais et puis que je vous dis, tiens, ben, à la fin du mois, votre salaire, vous ne le gardez pas pour vous, vous allez le donner aux pauvres et puis ben, voilà, vous débrouillez, quoi. C'est un petit peu ça, vous comprenez ? Donc l'amour est plus important que la loi elle-même. L'amour, il est parfait. L'amour accomplit ce que la loi demande. On va prendre aussi l'exemple d'Antite. Donc d'Antite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe qu'on appelle le groupe des circoncis, qui sont des juifs qui viennent de la caste des pharisiens, donc, mais qui sont croyants quand même, qui croient en Jésus, qui on les appellerait aujourd'hui des juifs messianiques, mais qui sont encore attachés aux traditions, qui n'ont pas encore tout compris de l'amour et de la liberté que Jésus nous donne. Et à ce moment-là, ils vont dire, surtout ben là, sur Tite, c'est en Crète, ils vont guider les Crétois vers le judaïsme, parce que pour eux, pour pouvoir être sauvés, il va falloir premièrement se convertir au judaïsme, deuxièmement se faire circoncire, apprendre les lois de Moïse et les textes sacrés, et ensuite ils pourront avoir le bénéfice du salut. C'est pas ça que Jésus nous demande. C'est pas ça, il a pas dit, Jésus, que ceux qui croient en moi, qui se convertissent au judaïsme, qui apprennent la loi, qui fassent des sacrifices, qui respectent le sabbat. Non, c'est pas ça. Jésus, c'est croyez en moi, croyez que je suis le Messie, que je suis venu pour prendre vos péchés à la croix, et vous serez sauvés. C'est ça, Jésus. Le non-conformisme de Jésus doit être notre tradition. Mais attention, je vais quand même mettre des grosses parenthèses, ce n'est pas un appel à faire n'importe quoi. On sait très bien que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui aime la provocation. Donc ne faites pas toute chose pour provoquer, pour déranger, mais faites-le par amour, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et bien sûr, à tout ça, il y a une solution. On a une solution qui est Jésus. Et cette solution, je vais vous lire Matthieu 7, verset 12. « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Voilà comment on peut accomplir la loi comme Jésus l'a faite. Faites pour tous ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. En gros, aimez les autres sans rien attendre en retour. Aimez les autres plus que vous ne pouvez vous aimer. C'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, cette loi même qui nous condamnait est accomplie et que nous avons accès à la vie éternelle. On va même pouvoir le retourner dans l'autre sens. C'est là, faites à chacun ce que vous voulez qu'il fasse pour vous, mais ne faites pas à chacun ce que vous ne voulez pas qu'il vous fasse. Quand on est dans un temps, surtout dans un temps avec le Seigneur, mais même en règle générale dans la vie, ça nous arrive et personne n'est à l'abri. On a tous quelqu'un qui est plus original, son style vestimentaire, sa façon d'être, de se comporter. On a tous quelqu'un d'original dans notre entourage. Ça nous est arrivé à tous de regarder quelqu'un en disant ouais, bon courage mon gars, c'est pas gagné. Ben, en fait, c'est pas ça. Personnellement, si on me fait ça, je ne vais pas aimer. Je ne vais pas apprécier. Ça va me mettre mal à l'aise de me sentir jugé. Ce n'est pas agréable. Vous êtes d'accord? Alors ne faisons pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. À l'image de Paul dans les Actes, quand Paul a été interpellé sur le chemin de Damas par cette lumière, par Jésus qui est venu le chercher, Paul avait comme des écailles devant les yeux. Ces écailles, c'était le traditionnalisme, c'était le manque d'amour, c'était vraiment, il était aveuglé par la haine, la colère, et tout dirigé par cette tradition, par cette culture qui faisait qu'il ne pouvait pas aimer les chrétiens, ceux qui acceptaient l'œuvre de Jésus, l'œuvre à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un moment de prière, Paul a été rempli du Saint-Esprit et ses écailles sont tombées par terre. Et ça, c'est la vraie solution, c'est la présence de Jésus dans nos vies. Cette présence fait tomber nos écailles, mais nous avons constamment besoin d'être renouvelés de cette présence, parce que les écailles, elles viennent. Nous sommes dans ce monde déchu qui est, voilà, on a des écailles qui sont tombées, ouais, c'est génial, puis deux secondes après, ouais, regarde celui-là, là. Non, faut qu'on enlève ces lunettes, faut qu'on regarde la vie, les gens, nos frères, nos sœurs, avec des yeux empreints de l'amour de Christ. Et je vais demander aux musiciennes, Val et Paolo, de se mettre en place, s'il vous plaît. Et c'est ça, c'est Jésus qui dit dans Marc que son peuple est éloigné de lui. Il m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais vraiment, c'est cette notion, j'aimerais qu'on prenne vraiment conscience aujourd'hui, c'est que nos cœurs doivent honorer Jésus, nos bouches doivent honorer Jésus, mais nos cœurs avant tout, nos pensées doivent honorer Jésus. J'aimerais que aujourd'hui, nous prenions ces traditions, comme on prend par tradition la Sainte Cène, comme par tradition on peut venir le dimanche matin. Mais j'aimerais qu'on prenne conscience que ces traditions-là, c'est plus que des traditions, c'est une relation. Et c'est ça le titre du message. C'est la tradition versus la relation. Le choc entre la tradition et la relation. Et cette relation, je vais vous le donner en mille, lâchez les traditions du royaume de la terre, mais prenez et cultivez les traditions du royaume de Dieu. C'est là notre but. Nous voulons, nous devons être le sel de la terre. Jésus nous appelle à témoigner, pas à témoigner de ce qu'on est mieux que les autres, pas témoigner de ce que, ben voilà, moi, je pêche pas, je fais pas ci, je fais pas ça, bien sûr, je pêche, je suis comme tout le monde. Mais de témoigner qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose de différent là où nous sommes, il y a quelque chose de différent auprès de Jésus. Et ce quelque chose de différent, c'est l'amour. Cet amour qui ne regarde pas les traditions. Cet amour qui s'en fiche de comment tu es habillé. Cet amour qui s'en fiche de comment tu pries, de comment tu parles. Est-ce que tu es plus exubérant? Est-ce que tu es moins exubérant, plus introverti? On s'en fout. Les traditions du royaume doivent être cultivées. Et cette tradition, il n'y en a qu'une à cultiver, c'est l'amour. Si vous cultivez l'amour, alors vous cultivez le royaume de Dieu. J'aimerais qu'on puisse s'incliner, vraiment abaisser la tête et fermer les yeux devant le roi des rois ce matin. J'aimerais prier pour vous. Et si vous prenez conscience de ces traditions qui peuvent écraser ou voiler votre regard sur les autres, alors placez-vous devant notre roi, devant notre sauveur. Et oui, Père éternel, Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes là non par tradition, mais par relation. Parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu es mort à la croix pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, nous voulons t'honorer, pas du bout de la bouche, mais vraiment que notre cœur, que notre corps, que notre esprit, Seigneur, te loue et te rende grâce aujourd'hui, Seigneur. Que ta gloire soit élevée par nous, dans notre comportement, dans nos pensées, Seigneur. Je te demande, Seigneur Tout-Puissant, de faire tomber continuellement ces écailles de nos yeux pour que nous puissions regarder nos frères et nos sœurs avec des yeux d'amour, avec tes yeux, Seigneur, avec les yeux empreints de ton amour. Voir le monde comme tu l'as vu, ce monde comme tu l'as vu qui fait que tu as pu te sacrifier pour nous, Seigneur. Tu as tout donné pour nous, Seigneur, par amour. Alors, Père éternel, nous voulons nous mettre devant toi aujourd'hui et nous implorons ta grâce dans nos vies. Et nous voulons te remercier pour ce sacrifice que tu as fait pour nous et qui fait de nous tes enfants. Dans le nom de Jésus, amen. J'aimerais vraiment qu'on prenne ce chant à genoux devant toi. J'aimerais vraiment qu'on le prenne, non pas juste comme un chant, mais vraiment comme un moyen de s'incliner et de révérer notre Dieu. Merci.
Chacun. Je vais introduire le moment qu'on avait annoncé il y a deux semaines pour faire un moment de reconnaissance, prier, remercier Dieu pour l'arrivée de Philippe de la Fuente en tant que pasteur de cette église du CEP. Pour introduire ce moment, j'aimerais juste partager avec vous la pensée suivante. Je réfléchissais un peu cette semaine, quels sont les jalons dans une vie, les étapes qu'on se souvient. Alors, quand on réfléchit aux jalons, aux étapes, on pense souvent à des étapes peut-être négatives, des étapes tristes, et des étapes aussi joyeuses, des étapes qui réjouissent. Et quand je réfléchissais à ces étapes qui réjouissent, je réfléchissais pour ma vie, quelles sont les dates que je me souviens, quels sont ces jalons qui sont importants pour moi. Alors je réfléchissais à ma naissance, je ne m'en souviens pas, mais cette naissance est importante, forcément. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a peut-être? Ça varie en fonction des personnes. Mon premier jour d'école, peut-être quand j'ai eu mon permis. Peut-être quand j'ai rencontré Dieu, peut-être quand j'ai rencontré ma femme aussi. Réfléchissez un peu à ces moments-là, les dates que vous avez dans votre vie, peut-être quand mes enfants sont nés. Et après, je réfléchissais un peu quels sont les jalons pour notre Église. Quels sont les jalons pour l'Église avec un grand E, mais là, je vais vous parler de l'Église avec notre petit E, cette Église locale du CEP. Et en réfléchissant à ces jalons, Rémi, tu peux mettre la première photo que je t'ai donnée, s'il te plaît. Ça, c'était le premier jalon que j'ai mis pour cette Église. C'est le document qui avait été posé en préfecture le 9 octobre 1979. La constitution de l'Assemblée du CEP. Moi, je ne m'en souviens pas, je n'étais pas né. Mais je pense que c'est un jalon pour cette Église. Et ce jalon a servi qu'il y en ait d'autres derrière. Tu peux mettre la photo d'après. Alors, je suis déçu. Ah, celle d'après, j'ai mal numéroté, pardon. Voilà, celle-là. Je suis déçu, j'ai mis cette photo. Pierrot, il n'est pas là. Hein, aussi. Ah, si, tu es là, je ne te vois pas, Pierrot. J'espérais qu'il y avait Pierrot et Georges. Mais ça, c'était un jalon aussi, des gens qui se sont levés, qui ont construit cette Église, qui ont... Pardon ? Eh ben, on vieillit, hein. Mais Pierrot, moi j'ai du plaisir à voir cette photo. J'ai l'impression que vous cherchez le trou du cerne ou un truc là dans cette évacuation. Oh, mini parenthèse, on peut penser à Georges. J'aurais bien voulu qu'il soit là ce matin, mais il est continué à avoir très mal à son dos. Il ne faut pas qu'on lâche dans la prière. Donc j'anticipe un peu les annonces, mais prions pour Georges. Cette construction d'église. Et puis tu remets la photo d'avant, Rémi, s'il te plaît. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, je pensais que c'était l'inauguration de l'Église, mais ce n'est pas l'inauguration de l'Église, vu qu'elle n'est pas bien construite encore. Mais l'inauguration de l'Église, je me suis renseigné ce matin, 10 octobre 1982, c'était une phase importante pour cette Église. Et ces jalons ont permis que 30 ans plus tard, tu peux mettre la photo d'après, Rémi, s'il te plaît, 30 ans plus tard, il y a un club qui commence dans cette Église, parce que des gens ont eu une vision 30 ans avant, et ça s'est transformé en ministère pour les enfants. Le premier club d'été... J'ai regardé la date, le 13 août 2012, premier club d'été. On s'en souvient bien. Regardez comme ça a grandi depuis. J'étais réjoui de voir cette photo ce matin. Et puis, vous me voyez venir, je vais en mettre un autre de jalon. Enfin, j'en mets deux autres. Mais là, je n'ai pas de photo pour l'avant-dernier. Le 25 septembre 2016, je crois que la date est juste, j'ai regardé aussi. Le 25 septembre 2016, c'était le premier culte, le premier message dans cette église d'un pasteur qui arrivait d'outre-Atlantique. Avec un accent, vous voyez me venir, il s'appelait Philippe de la Fuente, il s'appelle toujours Philippe de la Fuente. Il est arrivé, d'abord on a rigolé avec son accent, puis après on a dit « Ah, il est intéressant ce pasteur ». Et deux ans après, le 3 septembre 2018, début du ministère reconnu par l'Église de Philippe de la Fuente, ici en tant que berger, en tant que pasteur. Et c'est ce qu'on veut célébrer ce matin. Je veux juste lire avec vous un passage d'Éphésiens, c'est le passage qui est connu, mais je vais quand même le lire en entier, il est un petit peu long, mais il est tellement bien. Et... Éphésiens 4, verset 7. Et vous verrez, il n'y a pas le mot pasteur dedans, j'ai fait exprès. Éphésiens 4, verset 7, il y a le mot berger. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Un petit peu plus loin, verset 11. C'est lui qui a fait de dons de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. On continue. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ, l'amour qui bannit les traditions. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Aujourd'hui, on souhaite reconnaître publiquement ce ministère qui a été exprimé par des votes, mais ce n'est pas qu'une histoire de vote. On veut le vivre. Le vivre, ça ne veut pas dire juste dire « bonjour Philippe », ça veut dire « travailler tous ensemble ». Aller de l'avant. On veut exprimer notre reconnaissance, premièrement envers Dieu, qui a suscité un appel pour Philippe de la Fuente dans cette église, un appel qui était réciproque, pour venir nous aider et nous guider dans nos besoins spirituels. Dieu nous l'envoie et on le reçoit. Il y a quelqu'un qui ouvre cette porte. Dieu nous le renvoie et on le reçoit comme un don que Dieu nous a fait. Moi, je le reçois vraiment comme ça, personnellement. On veut reconnaître que Philippe a été guidé jusque dans cette église de manière un peu pas humaine du tout, extraordinaire. Je peux vous le dire, la manière dont on l'a vécu, vous l'avez certainement vécu aussi. Moi, je dis, il y a quelques mois, quand on a appris que Philippe avait démissionné de l'église missionnaire, j'ai dit, il y a le chef du Pôle emploi en haut, c'est un fou. Mais je le pensais vraiment comme ça, j'ai dit, c'est un fou. Ça fait des semaines, des mois, des années pour certains qu'on priait et qu'on avait confiance que Dieu avait déjà mis cette personne devant nos yeux, mais on ne l'avait pas vu. Et tout à coup, pouf, comme les écailles tiens, qui tombent sur le chemin de Damas, on l'a vu. Et on peut louer les dieux, on peut louer Dieu pour ça. Enfin, on veut aussi reconnaître que Dieu a toujours guidé cette assemblée. On est content de le faire maintenant avec toi, Philippe, mais Dieu a guidé cette assemblée sur les 40 dernières années d'existence, et même avant, parce que j'ai mis une date de début, mais les plus anciens me diront que cette date de début était fausse. Mais Dieu a guidé cette assemblée, et on veut prier de manière confiante qu'il va continuer à le faire, et qu'on va marcher dans son plan avec lui. Et enfin, on veut reconnaître qu'au-delà des dons et des ministères de chacun, Dieu en haut reste le seul et unique berger, pasteur, mettez le mot que vous voulez, notre seul et unique guide. Je vous lis encore un petit verset dans Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous feront paître avec intelligence et avec discernement. Bon courage, Philippe, il y a du boulot. Intelligence et discernement. Et enfin, je vais m'arrêter là. On souhaite aussi, par ce moment, accueillir Philippe et sa famille, sa femme, Marie-Ève, ses enfants, Héloïse, Jérémy. T'es arrivé à t'échapper d'en bas, c'est bien. et on veut demander une protection particulière pour eux. J'ai envie de dire une protection céleste, mais cette protection céleste, vous savez, comme vous et moi, ça ne veut pas dire que demain est facile. Mais ça veut dire que demain, dans les remous, dans les rapides de leur vie qu'il va y avoir, Dieu mène la barque à bonne destination. Et on veut prier dans ce sens-là. Donc je propose que vous veniez, Philippe, Marie-Ève, les enfants. J'ai demandé aux mes collègues de venir aussi, anciens. Et puis on va demander peut-être à Pierre et à Raymond pour prier pour Philippe, pour cette famille. Et puis si vous voulez vous exprimer aussi et faire monter à Dieu vos reconnaissances, levez les mains, allez-y. Soyez pas timides, faites sortir vos voix. Merci.
Oui, notre Dieu, c'est vrai que quand on regarde un peu dans le rétroviseur, qu'on voit ta fidélité, Seigneur, c'est ce que nous voyons à travers. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on a aussi cette reconnaissance. Et qu'on veut, comme on l'a fait, c'est vrai, t'honorer, t'ovationner. Oui, on veut voir derrière tout ce que tu as fait dans la fidélité des uns et des autres, et surtout dans ta fidélité à toi, pour nous propulser maintenant à l'avenir, Seigneur. Et parce que tu as dirigé d'une certaine façon tout cela, comme Pierre vient de le dire, et on veut te rendre grâce par rapport à ta direction, ton orientation, la façon dont tu as fait que nous sommes rencontrés de telle et telle manière, Seigneur. On ne va pas tout énumérer, mais on veut surtout par ces mots, par nos prières aussi, te rendre grâce. Et vraiment, il n'y a que dans des églises comme ici qu'on peut maintenant te prier pour l'avenir, Seigneur. Dire, mais voilà, demain, qu'est-ce que cela va être, Seigneur ? Oui, on est dans un monde qui est prisonnier de ses traditions, mais des fois complètement qui part dans n'importe quel sens aussi, Seigneur. Et on est là, nous, le sel et la terre, le sel de la terre, Seigneur, comme tu nous viens de le dire. Et on veut vraiment se projeter dans cet avenir, et c'est vrai avec Philippe, avec Marie-Ève, avec Héloïse, avec Jérémy ici, Seigneur, ben, tous ensemble, on pourrait dire tous les noms de qui sont présents ici, on veut relever le défi, Seigneur. On veut se présenter là devant toi comme étant ce sel de la terre, comme cette lumière dans ce monde, Seigneur. Oui, on sait qu'autour, il y a besoin de références. Et Seigneur, on te prie pour cet avenir. On te prie pour cet avenir ici de Prévesaint. On veut te prier pour l'avenir de la France. On veut te prier pour l'avenir de la Suisse à côté, Seigneur. Tu ne nous as pas placés ici, si proches de la frontière, pour rien, Seigneur. Et nous voulons encore relever le défi. Honore, Honore, Seigneur, encore nos prières, c'est vrai, notre engagement, notre foi, Seigneur, parce que nous croyons que tu veux faire des belles choses. Et maintenant, Seigneur, je veux te remettre vraiment particulièrement, c'est vrai, toute cette famille et particulièrement aussi, bien sûr, Philippe, Seigneur. Bénis-le. Fais qu'il ait cette intimité avec toi, qu'il soit renouvelé, Seigneur. Et on te prie pour une protection, ta protection spirituelle, la seule aussi qu'on peut réclamer dans une église, qu'on peut entendre dans une église, parce que tu es ce Dieu qui est protège, qui envoie tes anges, qui envoie ta force et ta puissance pour nous garder, Seigneur. Et nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu as su vraiment nous donner cette paix à chacun dans la façon dont tu nous a fait nous rencontrer les uns et les autres ici. Sois loué. Amen.
Oui, Seigneur, c'est vrai, c'est un temps de grâce que nous voulons vivre, un temps de reconnaissance, parce que ce jour, ces jours qui ont été préparés de toute éternité par ta grande sagesse, Seigneur, qui nous dépasse, nous commençons à les vivre maintenant. Seigneur, il y a déjà bien des années où certaines fois, certains membres de cette Église qui aspiraient à voir arriver ce berger ont peut-être été déçus par le temps qui a passé. Mais Seigneur, une chose est sûre, encore une fois, de toute éternité, toi tu avais écrit ce jour et tu le connaissais, Seigneur. Tu connaissais ce berger que tu allais nous envoyer. Tu connaissais chacun d'entre nous, chacun de ceux qui, membres de cette Église ou pas, de ceux qui ont passé, qui sont là aujourd'hui et qui passeront encore. Seigneur, tu connais chacun d'eux, tu connais leur cœur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que c'est dans cette confiance que nous avons pu avancer ces derniers mois, ces dernières années, en sachant que tu nous conduisais. Seigneur, nous avons pu avoir des interrogations, nous avons pu avoir des convictions bousculées, mais Seigneur, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu as préparé toutes choses et nous l'avons vu de nos yeux, Seigneur. Nous l'avons touché de nos doigts, Seigneur, et nous pouvons maintenant toute confiance nous placer devant toi parce que nous savons que ce que tu as préparé, que ce que tu as mis en place, tu veux maintenant le porter à son terme, Seigneur. Tu veux nous conduire dans ces jours qui viennent, dans ces jours qui suivent, tous ensemble. Seigneur, oui, on veut te rendre grâce pour Philippe, on veut te rendre grâce pour toute la famille qui nous rejoint, pour ce plaisir que tu nous fais de nous connaître, d'apprendre encore à nous connaître, de vivre ensemble. Et Seigneur, c'est vrai, c'est une responsabilité pour Philippe que d'être berger de cette église. Mais Seigneur, c'est une responsabilité de chacun d'entre nous que de vivre ensemble, que d'avancer ensemble, que de chercher à te rencontrer, que de chercher à vivre avec toi ces temps qui viennent maintenant, de chercher ce que tu as préparé encore pour nous. Mais Seigneur, simplement d'être placé devant toi parce que nous savons que tu vas nous conduire. Et nous savons que tu as dit que ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur, que pas après pas, que lueur après lueur, nous puissions être à ton écoute pour avancer ensemble. Seigneur, et particulièrement, ce que je voudrais prier maintenant du fond du cœur, c'est que ce dont tu nous as parlé ce matin, Seigneur, de cet amour qui vient de toi, Seigneur, pas de ce qui vient de nos cœurs humains, pas de ce qui vient de nos traditions, pas ce qui vient de nos pensées, mais Seigneur, que cet amour qui vient de toi, cet amour dont tu nous remplis jour après jour dans ta présence, nous en soyons tous remplis, débordants, Seigneur, et qu'ensemble nous puissions avancer dans les moments faciles, dans les difficiles, dans les moments où nous sommes d'accord, dans les moments où nous sommes en désaccord, Seigneur, pour avancer avec toi, pour avancer dans ce chemin que tu as préparé, dans ces ténèbres qui nous entourent, Seigneur, où tu as préparé aussi que ta lumière avance, que ton royaume avance, Seigneur. Que ce ne soit pas notre vision, que ce ne soit pas notre chemin, que ce ne soit pas nos pas, mais que ce soit vraiment ce que toi tu as préparé. Et que nous puissions être dans cette sagesse et dans ce discernement dont il a été parlé juste avant, tous ensemble, que nous puissions avancer avec toi. Seigneur, nous voulons vraiment être reconnaissants parce que nous avons vu comment tu as préparé toutes choses et nous verrons encore ce que tu as préparé pour nous. Et c'est dans cette confiance, dans cet amour et dans cette grâce que nous voulons te dire merci pour toutes ces choses. Amen.
Yes. Merci beaucoup, un gros, gros merci. Je ne voulais pas prendre la parole, mais forcément, mais en fait, je voulais simplement dire oui, merci. Je vais simplement dire ce que j'ai dit durant le week-end d'église, qui reflète bien et qui résume bien un peu mon état de cœur. L'église du CEP, ça fait plusieurs années, vous priez pour avoir un pasteur, quelqu'un. Comme je l'ai mentionné lors du dimanche du week-end d'église, je ne crois pas que c'est uniquement l'église du CEP qui avait besoin d'un pasteur. Je crois qu'il y a un pasteur qui avait besoin d'une église comme le CEP. Et ce n'est pas juste vous qui avez besoin de quelqu'un, c'est que nous aussi, on avait besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et je crois qu'en fait, la façon dont tout ça s'est dirigé, je crois que c'est juste un rendez-vous. Juste pour continuer à écrire la suite de l'histoire que Dieu veut écrire à travers chacune de nos vies. Alors, un gros merci pour votre accueil. Et encore désolé pour les nombres de fois que je vais vous demander comment est-ce que vous appelez prénom. Mon disque dur est en train de se remplir et faire de la place, mais... on est vraiment, vraiment heureux, hein, vraiment reconnaissant. À notre tour, on est immensément reconnaissant d'être là avec vous et de poursuivre la route qui a déjà été faite depuis tant d'années. C'était beau de voir la photo, extraordinaire. Vraiment, vraiment, gros privilège, grosse responsabilité. Merci. On vous aime. Merci.
Je partage encore avec vous quelques annonces. Je vous laisse découvrir le programme de la semaine à l'écran. Demain, c'est la reprise du Femme Club. Oui.
C'est la reprise. Oui. Toutes les femmes qui ont le privilège d'être libres le lundi après-midi, venez. C'est juste des temps bénis et on se réjouit qu'il y ait d'autres, de nouvelles personnes qui nous rejoignent. On est juste entre sœurs et avec notre sauveur, c'est génial. Venez demain, on poussera les murs.
Voilà, merci.
Chez nous.
Oui, donc
et
voilà.
Et Daniel n'est pas là, pas de souci. Hein.
Mais laissez-moi mon gâteau.
Concernant les annonces, je vais laisser le groupe de jeunes nous faire une annonce aussi.
Ça va. Elle casse tout. Non, mais comme vous savez, le groupe des jeunes, il y a eu des changements. Ils nous ont expliqué hier soir plusieurs petites nouveautés. Et en fait, donc les responsables du groupe de jeunes, ils ont eu l'idée de faire les cinquièmes samedis. Donc...
Qui est responsable du groupe de jeunes ?
C'est Rémi, Anne-Laure, Mathieu, Elodie et Pierre. Et puis, il y aura aussi Philippe qui va nous accompagner, tout ça, pour nous superviser, je pense, un peu. Et... Donc, le cinquième samedi, ce ne sera pas un samedi où il y aura la possibilité de faire des témoignages comme le cinquième dimanche, mais en fait, c'est un samedi où les jeunes du groupe de jeunes se doivent d'organiser la soirée et faire un peu ce qu'on veut, quoi. On est libre de faire, d'organiser ce qu'on veut. Et pour le premier cinquième samedi, on avait l'idée... De vous faire un repas, en fait, où on vous inviterait à manger en bas. Et puis, voilà, quoi. Pardon ? Oui, bon, on verra pour la logistique, mais... on mangera par terre, non, je rigole. Et donc, ça serait le 6 octobre à 20h. Et puis, y aura un doodle qui va pouvoir être mis sur Internet pour que vous puissiez vous inscrire. Ou sinon, au fond, on va mettre une petite feuille où vous mettrez votre nom, prénom. Et il y a deux types de repas et deux desserts. Alors, vous avez le choix aussi. On a fait ça bien. Et après, y a le menu parce que voilà, quoi. Et voilà, et Louise, elle va vous expliquer des petites choses pour la logistique.
Alors, bonjour. OK. Alors, comme Joy a dit, c'est le 6 octobre à 20h. Et en fait, le 6 octobre, c'est la même date que l'explosion louange à 17h à l'église, à une autre église, je ne sais pas le nom. Donc, voilà, exactement. Exactement. Donc, en fait, on a fait exprès... on a fait exprès de mettre le repas à 20h parce que entre 17 et 20h, vous allez avoir le temps de vous préparer et de vous saper comme jamais parce que le thème, c'est d'être chic. Donc, venez vraiment genre...
chic.
Ouais, c'est ça. voilà, donc comme elle a dit, il y a deux choix, donc il faut bien préciser sur la feuille. Au niveau des familles, le groupe de jeunes s'est mis en accord sur le fait qu'il serait préférable que si certaines familles veulent emmener des enfants, ça soit des enfants de 10 ans et plus, parce que, premièrement, c'est une soirée, donc il n'y aura pas de service de garderie ou de garderie. Et aussi parce qu'on veut vraiment que les parents profitent au max de tout ce qu'on a planifié. Et, ah oui, le meilleur pour la fin, c'est gratuit! Alors, voilà. Donc, il y a la possibilité de faire un don d'offrande libre. On voulait quand même vous le dire, parce que c'est vraiment pour nous encourager. Si vous voulez nous encourager, ben voilà. Et vous avez 3 semaines pour vous inscrire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.
Voilà.
Au revoir.
Alors, un grand merci. Je pense qu'effectivement, il y aura pas mal de monde. J'en profite juste pour vous dire que, donc, effectivement, le 6 octobre, il y a Explosion de Louanges qui redémarre pour cette nouvelle année scolaire à l'église adventiste de Mury, donc à 17h. 17h à l'église adventiste de Mury. Concernant les activités de l'église, je vais laisser Jean-Paul vous faire aussi une annonce concernant le parcours baptême.
Voilà, je dois juste m'adresser à ceux qui n'étaient pas au week-end dimanche et puis à ceux qui ont réfléchi d'ici là. Donc, on remet en place un parcours baptême. C'est pas une tradition. C'est chose qu'on aime bien, mais c'est pas du traditionnalisme. C'est pas quelque chose qu'il faut faire pour être baptisé. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est une découverte de ce que Jésus a fait pour nous, en gros, et ce que ça implique. Alors, si vous êtes intéressé, dites-le rapidement. On va fixer des dates avec les personnes qui m'auront dit qu'ils sont intéressés, simplement parce que pour des questions de planning. Voilà, donc vous me le dites, c'est tout à fait libre, c'est sans aucun engagement et c'est un moment super sympa. Alors profitez si vous avez un questionnement, quelque chose, de venir me dire simplement. Et puis à partir de la semaine prochaine, je contacterai les personnes qui sont intéressées, qui vont pour choisir ce planning. Merci.
Voilà, merci. Juste un petit peu avant, il y a une journée portes ouvertes à Yverdon concernant la Corée du Nord, la Syrie, l'Inde et l'Érythrée. Donc je mettrai le flyer sur le tableau au fond. Donc c'est le samedi 29 de 14 à 21h15. Voilà, je laisse Nancy faire une autre annonce. Il y a plein d'intervenants aujourd'hui.
C'était pas prévu. Juste pour vous dire, donc je pense que vous avez remarqué depuis 2 semaines, les écoles du dimanche sont plus avec nous. Donc on a repris chaque groupe dans les salles. On est reconnaissant, on a une 40aine d'enfants de la garderie jusqu'au groupe collège, dont 12 chez les petits. Ils sont 3 par dimanche pour garder les bébés. Mais c'est une reconnaissance parce que bon, voilà, on a du monde et puis les groupes vont encore grandir. Juste vous dire, aujourd'hui, vos enfants et les enfants ont reçu un petit livret. Avec cette année, on va apprendre un verset par cœur par mois. Donc je demande aux parents de faire attention à ce que ce livret ne soit pas perdu, parce qu'il n'y en a pas doublon. Chaque enfant, ceux qui n'étaient pas là, le recevront les autres dimanches. Surtout pour dire que c'est un petit challenge qu'on va lancer aux enfants et qu'on veut vivre tous ensemble. Dans le couloir, le verset du mois est affiché. Et puis, voilà, ça peut être aussi même un jeu, aller vers un enfant, lui demander s'il se souvient du verset ou autre. Ils auront des petites récompenses, ils le savent, ils ont bien compris. Mais c'était pour nous important la semaine passée, la leçon de la semaine passée, c'était, en tout cas pour les 2 plus petits groupes, laisser venir à moi les petits-enfants. Donc on a bien expliqué aux enfants qu'ils étaient importants aux yeux de Dieu, chacun individuellement, et puis que ben on avait cette façon de pouvoir communiquer avec Dieu et que Dieu nous parlait par sa parole, et qu'il était important d'en connaître des passages. Et donc vraiment, voilà, on leur a expliqué que pour nous c'était important et que voilà, d'apprendre des versets. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, puis du coup à la fin de l'année, il y aura bien sûr un concours avec tous les versets de l'année qu'on a appris. Et oui, vraiment, je voulais que ça rentre un peu entre les écoles du dimanche et l'assemblée. Il y aura Peut-être une fois, je viendrai vous demander à l'un ou l'autre de venir un matin pour venir interroger les enfants, que ce soit quelqu'un d'autre que le moniteur, pour un peu leur mettre la pression, mais aussi voir voilà, qu'on est, voilà. Je vous lis le verset de ce mois. Et d'ailleurs, les parents, je vais aussi vous l'envoyer à chaque fois en mail. Vous avez déjà dû le recevoir, celui de septembre. C'est « Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. » Psaume 25, verset 4. Et aussi à la fin du livret, les chants qu'ils ont appris et qu'ils apprennent cette année, avec un petit endroit de notes personnelles, si ils ont des petites choses à écrire. Et puis la dernière annonce, c'est que le 30, le cinquième dimanche, septembre, les enfants animeront le moment de louange pour vous, pour vous montrer aussi qu'est-ce que Dieu fait pour eux, et puis avec des chants, donc voilà.
Oui, j'invite Emmanuel à venir. Alors, rassurez-vous, c'est le dernier qui intervient en dehors de moi.
Alors, j'en profite comme j'ai la parole. Bonjour à tous, c'est la rentrée, club d'enfants. Le club d'enfants, qu'est-ce que c'est? C'est un club qu'on organise durant l'année. C'est un samedi tous les deux mois, le matin, de 10h à midi, pour les enfants de 4 à 14 ans. Et pour organiser ce club, on a besoin de bonne volonté. Donc on fait ce mercredi, le mercredi 19, à 20h30, une réunion chez nous pour tous ceux qui ont à cœur les enfants. Et voilà, c'est le club d'enfants, c'est durant l'année. Le club d'été, c'est autre chose. Donc là, vous vous engagez pour 6 samedis durant l'année. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus ce mercredi à 20h30 chez nous. Et j'en profite que j'ai le micro, juste pour vous donner un petit témoignage, parce que c'est vrai que pour moi, c'est émouvant de voir Philippe, qui est notre pasteur, là, aujourd'hui. Et je pense souvent à cette phrase, « Ne nous prenons pas au sérieux, mais prenons Dieu très au sérieux. » Et Philippe et Marie-Ève, moi, j'ai eu la chance de les visiter très souvent quand ils étaient au Canada, et ils me demandaient toujours « Comment ça se passe dans votre église ?» Donc, ils suivent l'église depuis longtemps. Et Philippe, il est un peu comme moi, on aime rigoler, et c'est vrai qu'on rigolait souvent avec ça, et je lui disais, mais tu te rends compte si un jour tu deviens notre pasteur? Mais ni lui ni moi, on n'aurait jamais pensé ça. Et comme quoi Dieu, il a des plans qui sont juste waouh. Et il a des plans comme ça pour chacune de nos vies.
Alors ce week-end, c'est le week-end des journées du patrimoine. Alors figurez-vous que le temple protestant de Ferney-Voltaire était ouvert déjà hier et il sera ouvert encore cet après-midi. Et puis, en visitant le temple, on peut aussi visiter une exposition sur Martin Luther King. Donc voilà, si vous ne savez pas où aller cet après-midi, vous pouvez aller au temple protestant de Ferney et c'est donc de 14 à 18 heures. Hier, on a eu des travaux ici. On a fait du béton en bas. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, c'est un petit peu plus propre comme ça. Mais figurez-vous que samedi prochain, on va refaire des travaux. Et puis ça va être comme ça, grosso modo, jusqu'à la fin de l'année. Par contre, samedi prochain, ça va être une grosse journée. On prévoit de travailler toute la journée avec le repas ici, etc. Donc dans les salles d'école du dimanche, donc depuis le mur qui est au fond de la salle jusqu'au fond du bâtiment, on va démonter les fenêtres, scier le béton au droit des fenêtres pour se préparer à recevoir de nouvelles fenêtres. Et puis, on va poser provisoirement les fenêtres qu'on va démonter à l'extérieur du mur pour pouvoir quand même fermer le bâtiment. Donc, une grosse journée de travail. Et pour ça, on a besoin de 5 personnes. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Il y a surtout besoin de bonne volonté, bien sûr de bonne humeur, mais ça, il n'y a pas besoin de le dire. Donc, voilà, 5 personnes, c'est quand même pas mal. Alors, n'hésitez pas à venir nous trouver. Il faut qu'on soit au courant de qui c'est qui vient, évidemment, à l'avance. Et puis, on aura aussi besoin de 2 personnes pour le nettoyage. Parce que comme on va travailler toute la journée, on ne pourra pas faire le nettoyage dans l'après-midi, donc il faudra le faire en fin de journée. D'où l'importance quand même d'être 2 pour que ça aille suffisamment vite. Alors voilà, venez me trouver si vous voulez participer soit pour travailler, soit pour nettoyer, qui est aussi un travail en soi. Je vous invite aussi à vous inscrire pour le thé café. C'est quand même des chouettes moments qu'on peut prendre ensemble tous les 15 jours. Avant le culte. Comme on l'a déjà dit, donc, la maison de John et Isabelle a subi un dégât des eaux assez important. Et puis, il y a un truc tout pratique. Ils auraient besoin de carton pour mettre leurs affaires, pour pouvoir les stocker pendant la durée des travaux. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a déménagé il n'y a pas longtemps, qui a des cartons costauds, en bon état encore, voilà, faites-nous le savoir, qu'on puisse les leur communiquer. C'est parfois des choses toutes simples, toutes bêtes comme ça, mais qui sont aussi utiles. Continuons de penser aussi à ceux qui souffrent. Roland m'a appelé tout à l'heure pour dire que Nelly, donc Nelly Geyser, Nelly de la Tate, est tombée jeudi matin. Heureusement, rien de cassé. Elle a passé la journée à l'hôpital ensuite pour faire des examens, voir comment ça va et tout. Rien de cassé, mais beaucoup de contusions. Et une bonne partie, justement, du temps qu'elle passe maintenant, elle le passe au lit pour se reprendre, se reposer et se ressourcer aussi. Donc on veut vraiment penser à elle, penser aussi à Damaris, qui s'occupe aussi de Nelly, que les deux soient gardés, fortifiés, et gardés aussi dans la paix. Continuons de penser aussi à Georges, qui aurait bien voulu être là ce matin, mais qui ne peut pas encore bouger trop. Donc continuons de penser aussi et de prier pour lui aussi, pour sa bonne santé. Je ne crois pas avoir oublié d'annonce, sinon je vous invite à vous lever. Et je vous lis encore deux versets dans Job 42, en guise de conclusion de notre culte. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.